Vatican News, le journal, il est 13h.
Avant sa visite dans le diocèse italien d'Albano ce soir au Vatican, le pape François, accompagné du préfet de la Congrégation pour les évêques, se sont entretenus ce matin avec le président de la conférence épiscopale allemande. En Allemagne, un synode sur 2 ans s'annonce. Il suscite des interrogations sur la communion entre Rome et les évêques locaux. À quelques jours cette fois du synode extraordinaire sur l'Amazonie au Vatican, alors que la forêt tropicale brûle toujours, la planète se mobilise pour le climat. Nous irons à Niamey dans ce journal. Des inondations ont fait des dizaines de milliers de sinistrés. Contre toute attente, les Houthis annoncent être prêts à la paix une semaine après les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes. Les rebelles chiites yéménites proposent de mettre un terme à leurs opérations militaires contre Riyad, qui leur fait la guerre depuis 5 ans. Et puis enfin, nous évoquerons de possibles pressions américaines, et plus particulièrement du président Donald Trump sur son homologue ukrainien. Afin de se faire élire en 2020 aux États-Unis, il veut des informations sur le business en Ukraine du fils de son rival, le démocrate Joe Biden.
Le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous. Le pape en visite pastorale ce samedi à Albano, une ville proche de Castel Gandolfo, au sud-est de Rome. Il se rend dans le diocèse d'un de ses hommes de confiance, Monseigneur Semeraro, le secrétaire du Conseil des cardinaux. À Albano, le pape présidera la messe ce soir. François, qui a par ailleurs rencontré ce matin un autre membre du Conseil des cardinaux, il s'agit du cardinal Marx, qui est également président de la conférence épiscopale allemande. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il a été reçu. En effet, l'Église catholique se prépare à vivre un synode de 2 ans en Allemagne. Il commencera le premier dimanche de l'Avent. Cette assemblée qui suscite des interrogations sur la communion entre Rome et les évêques d'Allemagne. Il en était question ce matin dans un tête-à-trois. Le cardinal Ouellet, le préfet de la Congrégation pour les évêques, participait également à cette rencontre. Les explications de Cyprien Viette.
Au terme de ces différentes rencontres, un communiqué de presse de la conférence épiscopale allemande a mis l'accent sur les fruits de ce dialogue constructif dont les résultats feront partie des travaux synodaux. Mais le cardinal Marx a aussi remis à François une lettre de la conférence conjointe élargie, l'organisme qui unit à l'épiscopat allemand les membres du comité central des catholiques allemands, le ZDK, de l'abus sexuel de la part du clergé à la réflexion sur leur style de vie, des difficultés diffuses pour accepter les principes de la morale sexuelle au problème d'une communauté qui vieillit et qui craint pour son renouvellement générationnel. Les sujets sont amples et variés. Dans une lettre publiée en juin, le pape avait encouragé entre autres l'Église en Allemagne à entreprendre un chemin de renaissance dans le signe de la communion et non par des initiatives individuelles. Chaque fois qu'une communauté ecclésiale a cherché à sortir de ses problèmes toute seule en se confiant seulement à ses propres forces, à ses propres méthodes et à sa propre intelligence, elle a fini par multiplier et alimenter les maux qu'elle voulait surmonter, avertissait alors l'évêque de Rome. Dans sa réponse, le cardinal Marx se veut rassurant. Nous sommes unis à vous dans le sens ecclésiale parce que nous avons bien présente à l'esprit l'unité de toute l'Église, écrit-il, en espérant que ce parcours synodal permettra de tirer des enseignements de l'abus de pouvoir spirituel qui secoue profondément notre Église et toute la société, afin de pouvoir rendre témoignage de manière crédible de la bonne nouvelle dans le monde d'aujourd'hui.
Cyprien Viette. Et à quelques jours cette fois du synode sur l'Amazonie qui se tiendra du 6 au 27 octobre prochain au Vatican, la plus grande forêt tropicale de la planète brûle toujours. 16 avions, près de 7000 militaires brésiliens qui luttent actuellement contre les feux. Depuis janvier, 131 600 incendies ont été recensés au Brésil. Ils sont le plus souvent volontaires pour faire place à l'élevage ou aux cultures, la déforestation qui a presque doublé depuis l'arrivée du président Bolsonaro il y a 9 mois. Sans le Brésil, mais avec ses homologues chiliens ou colombiens, le président français lancera justement un appel à la mobilisation pour le poumon de la planète. Ce sera lundi prochain en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et du sommet onusien sur le climat. Et puis afin de mobiliser avant cette rencontre leurs dirigeants, les habitants de la planète se mobilisent. Ce samedi, dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète, de l'Australie aux îles Fidji ce matin, ils étaient des milliers de personnes qui ont nettoyé les plages, les rues, les bords de rivières polluées. Avant eux, hier, la jeunesse a manifesté pour le climat. 4 millions de jeunes mobilisés à travers la planète. Des pluies, des inondations, un fleuve qui déborde. Au Niger, le scénario se répète. Encore une fois, en septembre, une partie de la capitale Niamey était sous les eaux. 57 personnes sont mortes. 135 000 sinistrés ont été recensés. Face à ces catastrophes à répétition, les autorités prennent des mesures préventives, mais peinent à atteindre les populations les plus défavorisées. Elles ne peuvent bien souvent quitter leur habitation. Je vous propose d'écouter le témoignage du secrétaire exécutif national de Caritas Niger, Raymond Yoro Youssouni, à Niamey.
Il y a eu le fleuve qui est monté plus tôt que prévu. C'est lié toujours à la pluviométrie abondante. Et cette année, en plus des maisons, nous avons les champs et les rizières qui ont été inondés. Ce qui fait qu'il y a des cultures qui seront compromises. Parmi les sinistrés, il se trouve encore des populations qui ont été sinistrées les années passées. Les gens n'ont pas quitté leur ancienne maison. Et donc cette année, c'est les mêmes victimes. Au niveau de la ville de Niamey, il y a des endroits de relocalisation, mais ce n'est pas dans tous les villages qu'il y a cette possibilité-là. Ce qui fait, les populations étant pauvres, préfèrent toujours rester dans leur ancienne maison. L'État est en train de travailler pour renforcer les digues de protection et travailler au niveau du curail des caniveaux. L'autre élément, c'est surtout la sensibilisation des populations, qu'elles évitent de rester dans des endroits inondables, parce qu'il y en a qui tiennent toujours à leur maison. L'État essaie de travailler en liaison avec les communes pour sensibiliser ces populations afin de ne plus revenir sur ces endroits qui chaque année causent des problèmes.
Des propos recueillis par Cécile Mérieux. Une semaine après avoir revendiqué les attaques néfastes à l'encontre d'installations pétrolières saoudiennes, une annonce bien surprenante faite par le chef des rebelles yéménites. Il affirme que les Houthis sont prêts à lancer une initiative de paix, à cesser toutes leurs offensives contre l'Arabie saoudite. Après 5 années d'une guerre sanglante, dévastatrice pour le pays, les Houthis disent vouloir une réconciliation nationale qui n'exclut personne, attendent de l'ennemi saoudien qu'il pose un geste fort en échange. Manuela Figi.
L'intervention télévisée de Mehdi Machat, le chef des Houthis, ne doit rien au hasard. Elle intervient en effet 5 ans, jour pour jour après la prise de Sanaa, la capitale, par ses troupes. Et il ne propose aujourd'hui rien de moins qu'une initiative de paix. Celle-ci les engagerait à cesser toute attaque contre le territoire saoudien par des drones, des missiles balistiques ou autres moyens. En contrepartie, Riyad doit aussi cesser le combat, lever le blocus aérien, maritime et terrestre qui pèse sur le Yémen. Et le chef des Houthis de conclure, poursuivre la guerre n'est dans l'intérêt de personne. Surtout pas des civils, qui paient depuis 5 ans le prix fort de cette guerre complexe. En témoigne le triste bilan qui en ressort aujourd'hui. Des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés, un pays anéanti où sévit la pire crise humanitaire au monde. À dire vrai, cette annonce en déconcerte plus d'un, tant elle contredit la position adoptée par les Houthis jusqu'ici. Il y a une semaine encore, ils revendiquaient l'attaque contre des installations pétrolières saoudiennes. Attaques qui sont cependant imputées par l'Arabie et les États-Unis à l'Iran. La République islamique joue un rôle central dans cette affaire, principal soutien des Houthis, on imagine mal que ces derniers aient fait cette proposition de paix sans son accord. Serait-ce donc un moyen pour faire baisser les tensions? Il semble qu'aujourd'hui, en tout cas, la balle soit dans le camp de l'Arabie saoudite.
Et puis toujours suite à cette attaque contre les installations pétrolières saoudiennes, Washington a annoncé hier soir l'envoi de renforts militaires dans le Golfe, de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran. Ce matin, le chef des gardiens de la Révolution a prévenu que tout pays qui attaquerait l'Iran verrait son territoire devenir le principal champ de bataille. L'affaire fait grand bruit aux États-Unis. Un officiel des services secrets, lanceur d'alerte anonyme, aurait porté plainte contre le président Trump. Il accuse le président américain d'avoir demandé à un autre chef d'État, l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, de l'aider à se faire réélire lors de l'élection de 2020 en lançant des enquêtes sur son rival Joe Biden. Le fils du leader démocrate aurait en effet des affaires en Ukraine. Alors si le scandale éclate seulement maintenant à Washington, cela fait plusieurs mois, 4 mois qu'on observe les agissements des hommes du président Donald Trump à Kiev. La correspondance de Stéphane Sion.
Il y a environ 2 semaines, lors d'une conversation téléphonique avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump aurait fait une promesse à son homologue ukrainien, l'aide militaire contre une enquête ukrainienne visant Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection de 2020, Biden dont le propre fils, il y a quelques années, avait fait des affaires un peu douteuses en Ukraine dans le domaine de l'énergie. À Washington, les parlementaires sont tombés des nues. Le président serait donc prêt à instrumentaliser la justice d'un autre pays pour faire tomber son adversaire. Mais en Ukraine, où l'on se méfie énormément d'un Trump considéré comme vendu à la Russie, cela fait un bon moment qu'on observe un drôle de manège. Dès le mois de mai, l'avocat de Trump, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, tente de venir à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Mais le jeune président, alerté, refuse de le recevoir. Ensuite, tout l'été, l'administration américaine va faire pression sur les dirigeants ukrainiens afin que ces derniers lancent une enquête judiciaire visant la famille Biden. L'opinion à Kiev se montre particulièrement choquée que Trump tente de prendre en otage les autorités ukrainiennes pour assurer sa réélection. Kiev, Stéphane Siohan pour Radio Vatican.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde, bien sûr, de la curée, revient tout à l'heure à 18h. Excellente journée à vous tous.